France Musique.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Carrefour de la Création sur France Musique. Vous l'avez entendu si vous nous suivez depuis 20h, ce soir, en hommage à l'immense compositeur et chef d'orchestre hongrois Peter Ötvös, nous replongeons au cœur de sa musique. Mais que serait cette soirée sans entendre la voix du grand Peter? J'avais eu le grand plaisir de le rencontrer en 2021. Il venait à la Maison de la Radio et de la Musique à l'occasion de la création française de son nouveau concerto pour piano, Xifrapsodia, une œuvre en partie biographique qui ne cachait pas son attachement à ses racines hongroises et à la musique de Bartok en particulier. Comme un petit film, nous partions dans cette émission des musiques terriennes du folklore de Transylvanie, en passant par ses années de formation à l'Académie Liszt-Ferenc de Budapest, puis par Cologne, faisant un détour bien sûr par une scène d'opéra, lui, si attaché au lyrisme et à la narration. Embarquons donc pour un voyage souriant, tendre et beau, de la Terre aux étoiles, avec le magnifique Peter Ötvös. Bonsoir Peter Ötvös.
Bonsoir.
Peter Ötvös, qu'est-ce que l'on est en train d'écouter ici?
Je pense que c'est un ancien enregistrement de la Transylvanie, vous pensez?
Tout à fait.
Je ne sais pas. Oui,
qui a été collecté par Bartok même.
Ah, magnifique. Je ne connaissais pas.
Est-ce que tout part de là pour vous, de cette musique de la Terre, si je peux dire?
Non, ça me parle comme ma musique, langage maternel, je dirais. Mais pas celui-là, vraiment. Pas le chanter. Ça, c'est plutôt la musique instrumentale de Transylvanie. Ça, ce qui m'intéresse beaucoup. Cet enregistrement, je ne connais pas. Mais je connais beaucoup d'autres de cette sorte. Et ça me donne information. Mais la musique avec laquelle je peux prendre vraiment contact et même citer un peu ou composer ou mettre dans mes pièces, surtout la musique instrumentale transylvanienne.
Qu'est-ce qu'elle a de différente, la musique instrumentale, de la musique vocale en Transylvanie?
C'est tout à fait différent. Parce que la musique instrumentale, c'est pour la danse. Et c'est ce qu'on chante, on raconte une histoire. C'est parlando, c'est rubato. Et la musique instrumentale, c'est pour la danse.
Justement, vous avez utilisé l'expression parlando rubato. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est comme les mots. Alors, on parle librement.
Il y a donc un lien fort entre votre musique et la langue hongroise qui semble structurer la musique même de l'intérieur?
Mais chaque langue structure la musique intérieure. Les voyelles, les consonnes, ça décide déjà la longueur d'une note, la forme d'attaque, l'articulation. Et c'est pourquoi, quand j'écris mes opéras, j'aime bien décider très tôt sur quelle langue je vais écrire, parce que chaque langue est très différente dans ces catégories. On a les langues qui ont beaucoup de bruit dans les consonnes et qui est bien, parce que ça sort bien sur la scène. Ou les voyelles, s'ils sont ouverts ou trop fermés pour le chant.
Et le hongrois, qu'est-ce qu'il a de particulier?
L'hongrois a une grande difficulté pour moi, parce que j'ai vu le château Barbe Bleue de Bartok quand j'avais 12 ans, la première fois. Et après, j'ai dirigé, je ne sais pas, 1000 fois. Alors, beaucoup, beaucoup de spectacles et concerts. Et ça me restait surtout dans la langue et dans la prosodie. Les mélodies courtes que Bartok utilisait pour les mots étaient tellement fortes dans ma pensée que si j'écrirais une opéra en hongrois et le même mot revient, alors automatiquement je ferais la même chose, c'est ce que je connais. Et ça c'est la raison pourquoi j'ai évité jusqu'à maintenant écrire en hongrois, mais l'année prochaine j'ai reçu une commande de l'opéra hongrois de Budapest et écrire enfin une opéra en hongrois. Parce que tout le monde, surtout en Hongrie, on entend ça. C'est pourquoi je ne fais pas, pourquoi je n'ai pas fait. Et maintenant, il faut que je montre que je peux faire ça aussi. Mais c'était difficile de trouver un texte hongrois d'une autre façon que cette de Billabollage, qui était très parlando et très rubato. Et enfin, j'ai trouvé un texte de László Krasznahorkai, qui utilise la langue hongroise, mais dans une complètement différente façon. Alors, je peux utiliser la langue sans cette erreur de tomber dans le château Barbe Bleue.
Peter Hautevoeux, vous venez d'évoquer le château de Barbe Bleue de Béla Bartók. Qu'est-ce que ce serait vos principaux souvenirs de cette œuvre?
Le plus fort, c'est la toute première rencontre avec ça, parce que j'avais 12 ans, nous étions dans une autre ville à cette époque-là, et ma mère m'a pris à Budapest pour écouter les trois Bartók dans la même soirée à l'opéra. C'était le Château Barbe Bleue, le Mandarin et le Prince en Bois. Et ça donnait une tellement forte impression chez moi, que je me souviens maintenant encore la scène, alors le décor, les mélodies, surtout le mandarin, ça m'intéressait beaucoup. J'ai gardé les noms des danseurs, etc. Alors c'était une soirée qui m'a montré la chemin sur laquelle je vais continuer ma vie. Et après, quand j'ai fait mes études, le Bartók, toutes les trois pièces revenues plusieurs fois, à diriger, surtout le château Barbe Bleue, c'était vraiment une de mes pièces à diriger le plus souvent.
Peter Hautevoeux, vous avez effectivement dirigé beaucoup de fois le château de Barbe Bleue. Est-ce qu'il y a un pont possible entre votre goût pour diriger cette œuvre et le drame qu'il y a constamment dans votre musique, dans vos œuvres?
C'est difficile pour moi d'éviter l'impression de château Barbe Bleue. Alors, pas seulement quand j'écris mes opéras, mais aussi dans les pièces symphoniques, j'essaie toujours contrôler si j'ai pas fait quelque chose qui vient si fort dans ma pensée musicale de Château Barbe Bleue. Mais dans ce dernier temps, ça va mieux, bien sûr. Csendes fehér tavat látok. Je peux voir une étendue d'eau. Mozdulatlan fehér tavat. Une eau dormant blanche et tranquille. Milyen víz ez kék szakálló? Kedves quelle est cette eau mystérieuse?
Peter Hudvösch, j'ai l'impression que la sonorité du début de ce lac de larmes de Bartok, cette espèce de coulée de vent, de harpe et de glockenspiel, on peut peut-être en trouver des traces dans la sonorité même de plusieurs de vos œuvres.
C'est bien possible. Cette musique, c'est que ça fait partie de moi.
C'est la langue maternelle.
On pourrait dire ça.
Un extrait de la célèbre scène du lac de larmes dans le château de Barbe Bleue, un opéra de Béla Bartok, sur un livret de Béla Balázs, dans une version de concert, avec l'orchestre de la SVR de Stuttgart, évidemment dirigé par Peter Hudvösch. Peter Hudvösch, nous étions dans la musique de la Terre, nous avons marché à la rencontre de Béla Bartok, nous allons maintenant monter dans une voiture et prendre la route. Peter Hudvösch, à l'âge de 14 ans, vous quittez votre Transylvanie natale pour rejoindre Budapest et étudier à l'Académie Liszt-Ferenc. Quel souvenir vous gardez de cet endroit?
De l'Académie? Oh là là, c'est une des meilleures académies du monde. C'est extraordinaire comme bâtiment. C'est aujourd'hui aussi un des plus importants bâtiments à Budapest. On ne laisse pas les touristes. On ne laisse pas les touristes le voir parce que si on commencera là, ça n'arrêtera jamais. Et il faut savoir que quand j'ai commencé mes études à l'académie, en même temps, j'étais dans le gymnase. Et normal, j'ai fait mes études de gymnase pendant 4 ans. Alors, le matin, j'ai commencé à la gymnase, faire le normal école. Et l'après-midi, j'ai fait mes études à l'académie. Et le soir, c'était soit pour les concerts ou 2 ans plus tard, j'ai commencé déjà professionnellement à agir, faire la musique pour théâtre, pour le film. Alors, différents travails comme compositeur, comme jeune compositeur. Mais comment j'ai fait ça, je ne peux pas imaginer aujourd'hui.
À cette époque, Peter Rodewusch, vous rencontrez aussi Gheorghi Ligeti. Quelle impression il vous fait la première fois que vous le rencontrez ?
Ligeti, j'ai rencontré beaucoup plus tôt, encore à Miskolc, quand j'avais 10 ans. Ligeti était envoyé par le ministère comme inspecteur dans notre école. Et comme jeune musicien, j'étais le seul à l'école qui composait aussi, mais on n'avait pas une classe composition parce que c'est inutile, moi j'étais tout seul. Et quand Ligeti est arrivé, on m'a dit que c'est Monsieur Ligeti, est-ce que tu as quelque chose à lui montrer de tes œuvres? Ah oui, j'ai un cantate, je pourrais très bien montrer. Ligeti était là, j'ai rencontré lui, il était très très gentil. Peter, qu'est-ce que tu fais? J'ai composé une cantate, assieds-toi, tu peux me montrer. J'avais une voix soprane à cette époque-là, alors encore parce que j'étais avant la mutation. J'ai joué le piano et j'ai chanté la cantate. Il était très content. Et 10 ans plus tard, quand j'ai rencontré la deuxième fois à Darmstadt en 65, il m'a reconnu. Allez, Peter, qu'est-ce que tu fais là? Alors, je suis ici à Darmstadt pour écouter le cours. Mais qu'est-ce que tu as fait entre-temps? J'ai composé, j'ai fait différentes choses. Alors, nous avons tenu un contact jusqu'à sa mort, surtout ici à Paris. J'ai dirigé beaucoup de festivals de Ligeti, aussi en Angleterre, partout au monde entier. On avait toujours un contact amical et musical aussi.
À cette époque, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez plusieurs petits boulots, entre guillemets. Vous êtes pianiste pour accompagner des films ou des pièces de théâtre. Ça a été important et formateur pour vous, cette période ?
Très important. Automatiquement très important, parce que ça laisse ses traces dans la pensée. Et surtout, les répétitions aux différents théâtres, théâtre dramatique, je veux dire, alors là, dans lequel on parle, m'a donné une école pour la façon comme on travaille dans les théâtres, ce qui était très très important dans le moment quand j'ai commencé à écrire mes opéras. Je savais qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut préparer quelque chose pour les répétitions et quels sont les points sur lesquels il faut faire attention. Et j'avais 17 ans quand j'ai commencé, pas seulement écrire, travailler dans les différents théâtres, parce que le travail c'était aussi la partie des répétitions, dans laquelle on m'a donné un pianino, et on a fait la répétition avec les acteurs, et on m'a dit, Peter, nous avons besoin d'une petite musique, fais quelque chose là. J'ai joué, non, pas ça, un peu plus lent, hein, comme ça, ça bien. Oui, tu peux garder ça, ça va aller, c'est très bien. Voilà, alors j'ai appris quelle musique est bien pour un sein comme celui-là.
Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas?
Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Et quand je pouvais instrumenter, ce n'était pas moi qui jouais au spectacle, mais j'étais dans le public et j'ai senti toujours si cette musique, ce que j'ai écrit, si ça fonctionne ou pas.
Alors à propos de théâtre, je vous propose maintenant d'écouter une petite archive.
Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, 5 мая, в твои именины, Ирина. Было очень холодно, тогда шел снег. Мне казалось, я не переживу. Ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко. Ты уже в белом, лицо твое сияет.
Alors à propos de théâtre, Peter Hodewesch, on est ici ni en hongrois, ni en français, mais en russe. Qu'est-ce que l'on entend ici?
C'est les trois sœurs, non?
C'est tout à fait ça, c'est le début des Tchekhov, trois sœurs.
Tchekhov, oui.
De Tchekhov. Est-ce que vous avez accompagné cette pièce en jouant du piano?
Non. Quand j'ai travaillé sur les trois sœurs, j'avais déjà une très grande expérience. J'avais plus que 50 ans. J'ai commencé à écrire la musique pour les trois sœurs en 95. La première, c'était en 98 à Lyon. Mais c'est sûr que c'était mon premier opéra. Et je suis très curieux comment c'est possible que ça fonctionnait tellement bien, parce que j'avais bien sûr certaines expériences. Mais dans cet opéra, on a tellement des nouveautés, utilisant les deux orchestres différents, avec deux chefs qui ont un contact seulement par le vidéomoniteur, et utiliser quatre contre-ténors, ce qui était absolument impossible. Mais tout ça fonctionnait depuis le premier moment.
Et Peter Hodewesch, les trois sœurs de Tchekhov, c'est une intrigue aussi très psychologique, beaucoup plus psychologique que d'action véritablement démonstrative. Est-ce que ça a été aussi une gageure, une difficulté supplémentaire à adapter à l'opéra?
Je pense pas. C'est pas supplémentaire, mais cette base, disons, cette difficulté pour moi, parce que mon fils était mort en 1994. Alors quand j'ai commencé à écrire, j'avais cette douleur déjà, et cette, disons, aussi l'énergie, entre guillemets, qui me donnait sentir quelque forme je pourrais mettre sur le thème adieu. C'était le adieu pour moi, adieu vers mon fils, mais c'est le trois sœurs, c'est partout l'adieu. Dans le trois sœurs, on a toujours un triangle, on a toujours une personne entre deux autres, et c'est le choix pour cette personne, choisir le contact avec une ou avec l'autre. Et comme les trois, le numéro trois, ça joue un rôle central dans cette pièce, j'ai pu reconstruire la dramaturgie de Tchekhov. Alors, je n'utilise pas la même dramaturgie comme Tchekhov, je ne raconte pas chronologiquement comme Tchekhov, mais j'ai assemblé toutes les scènes autour d'une personne. Et comme ça, et mon opéra avait une autre dramaturgie que chez Tchekhov, et c'était peut-être un point très fort pour le succès, c'est ce que cet opéra avait.
Dans les éléments musicaux forts de cet opéra, Peter Hodewesch, il y a ces quatre contre-ténors. Comment vous avez trouvé cette idée de ces registres très peu banals pour un opéra?
C'était une certaine phase quand je suis arrivé sur cette décision. Je voulais éviter que l'histoire devienne une histoire de famille. Alors, c'était beaucoup plus important pour moi d'entrer cette direction, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vers le adieu. C'est la douleur de perdre quelqu'un. C'est comme chez Tchekhov, c'est exactement la même chose. Alors, c'est toujours quelqu'un part et ne revient plus. Et ça peut-être que ça c'est le thème de mon opéra aussi.
Peter Rodvösch, après avoir travaillé comme pianiste dans des théâtres à Budapest notamment et obtenu votre diplôme de composition, vous partez direction en Allemagne et à Cologne en particulier. C'était une ville importante pour vous, Cologne, pendant les années 60 ?
Très important. On n'a pas d'autre centre de la musique contemporaine que Cologne. Cologne, ce n'était pas seulement le studio électronique, c'était aussi l'orchestre de la WDR qui crée par exemple le groupe de Stockhausen. Et nombre des grands compositeurs de cette époque-là habitaient à Cologne. Stockhausen, Zimmermann étaient là, Ligeti était là. Et quand je suis arrivé, tout de suite, pratiquement le premier jour, j'ai trouvé une petite affiche, Stockhausen cherche copiste.
Il fallait
j'ai
y aller.
Dit, absolument, j'ai dit, voilà, je suis là. Et je me présentais. On achetait ensemble le papier, on achetait le crayon et on a commencé la copie d'une œuvre de musique électronique. Alors, pas les notes normaux, mais c'était plutôt un graphisme, c'est ce que j'ai fait, et sur laquelle j'ai travaillé à peu près un an. Et dans ce temps, on connaissait tellement bien, Stockhausen et moi, que je restais toujours en contact avec lui jusqu'à sa mort.
Peter Rodvösch, comment vous pourriez qualifier la relation que vous entreteniez justement avec Stockhausen ?
J'ai appris beaucoup de lui parce que j'étais encore très jeune et je suis venu d'une autre culture. Tout ce que j'ai appris en Hongrie, c'était le côté, je dis souvent comme exemple, comme une fleur au-dessus de la terre. Et quand j'ai rencontré Stockhausen, en travaillant avec Stockhausen, c'était les racines de chaque fleur. C'est-à-dire le parti qui crée la beauté d'une fleur, par exemple. En Hongrie, la musique doit être magnifique, c'est une beauté. Mais comment on peut réussir à avoir cette beauté? On n'a jamais dit ça. Ça doit être, non, on doit être, mais comment? Et chez Stockhausen, j'ai appris ça.
Et justement, comment Stockhausen vous le disait, vous l'expliquez?
Il n'a pas dit, il a pratiqué. Et on a vu que tous les éléments de base, et surtout quand j'étais technicien de la studio musique électronique à Cologne, j'ai vu quelles difficultés est là pour créer un seul note avec des sons sinusoïdes, quelle composante a besoin pour arriver à créer un seul son. C'est ce que nous connaissons d'une sonorité d'un violon, du cello, c'est déjà préfabriqué, c'est-à-dire c'est déjà un résultat d'une certaine sonorité, mais quand on veut reconstruire la sonorité, par exemple, d'un violon, ça dure à peu près 2 semaines dans un studio électronique. Alors, j'ai appris la technique de créer un seul son, de donner la durée, donner la dynamique pour ça. Et c'était les éléments les plus importants. Là, je dis que ce sont les racines de la musique.
Alors, je vous propose, Peter Rodvösch, pour évoquer vos années auprès de Stockhausen, d'écouter un document. C'est un commentaire de Stockhausen lui-même qui explique, vous allez le voir dans un français parfait, un extrait de sa pièce Alphabet pour Liège. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment, Peter Rodvösch?
Oui, je me souviens bien. Oui, oui, j'étais un des membres de ce projet. J'adorais. C'était très, très intéressant parce qu'il a collecté les choses physiques qui n'est pas forcément la musique, mais c'est un résultat du son. Alors, tout ce qui est avec la vibration, en contact, en vibration, on pourrait le voir, par exemple. ce sont les magnétismes sur un haut-parleur. Et quand on a changé l'auteur du son, plus haut, plus bas, l'image s'est changée complètement.
Un extrait complètement fou et entre nous assez jubilatoire de Karl Stockhausen commentant son œuvre Alphabet pour Liège. L'ensemble de musiciens était placé sous la direction d'un tout jeune Peter Odvoch.
Générateur électronique dans quatre bassins de l'eau. Une vraie polyphonie musicale est jouée par Monsieur Henk de Cologne, qui est un pianiste très fameux et qui a préparé pour cette œuvre la situation que j'ai décrite tout à l'heure, de faire visible des vibrations sonores dans l'eau. Et on voit des gris d'une beauté extraordinaire qui change continuellement avec le son. Il fait aussi voir les vibrations sonores qui sont transmises par un haut-parleur sur des flammes de gaz. Il y a à peu près une soixantaine de flammes de gaz
avec la bouche.
Dans trois chaînes, et quand on met un haut-parleur à côté, on voit la vibration sur les pointes des flammes. Et dans une autre chambre, une chanteuse est en train de magnétiser de la nourriture. Elle fait du pain et elle chante sur le pain. Et il y a une autre fille, une artiste anglaise, qui a un pendulum. On appelle ça un pendulum.
Karl Stockhausen, qui évoquait dans une véritable création sonore sa pièce Alphabet pour Liège, nous étions en 1973, et les musiciens que l'on entendait étaient tous placés sous la direction de Peter Odvoch. Peter Odvoch Stockhausen dirigeait aussi ses propres œuvres. Est-ce que c'est lui qui vous a donné l'envie de vous lancer dans la direction d'orchestre ?
Non. J'ai fait mes études pendant 2 ans à Cologne, à l'Académie. Et après ça, j'ai arrêté un tout petit peu parce que la musique électronique, ça m'intéressait plus. Surtout le live électronique. Alors, j'ai travaillé dans ce domaine, j'ai joué, j'ai improvisé beaucoup. J'étais dans le groupe de Stockhausen, on a fait des voyages partout. On a participé dans l'exposition mondiale à Osaka en 70. Et on était à New York avec le New York Philharmonic, on a créé le hymne, la version orchestrale. Alors, j'ai fait beaucoup de voyages avec lui. Et c'est arrivé vraiment par hasard que je suis devenu un chef d'orchestre parce que dans le bâtiment de WDR, c'est dans la radio de Cologne, j'ai rencontré un musicien de l'orchestre qui m'a demandé « Où est-ce que tu diriges, Peter ?» Comment dirige ? Non, je ne dirige pas, je travaille ici sur le 4e étage. « Ah non, tu ne diriges pas, mais il faut absolument, parce que nous avons vu ton concert de diplôme, c'était très bien, viens chez nous. Alors, on va organiser un enregistrement pour toi, une production. » On a fait ça, et l'orchestre m'a invité. Cette production marchait très bien, parce que j'ai oublié déjà, c'est ce que j'ai appris à l'école, c'était pas une direction scolaire, c'était juste une certaine communication avec des musiciens. Et cette communication allait très bien, et quelques semaines plus tard, j'étais déjà invité par une autre radio à Berlin, par Stuttgart, par Baden-Baden, etc. Alors, tout d'un coup, je suis devenu un chef avec un répertoire toujours contemporain. Parce que moi, comme compositeur, j'ai compris parfaitement c'est toutes les partitions contemporaines. Et on savait ce que je travaille avec la musique électronique aussi. Et par exemple, ce que je suis devenu le chef de l'ensemble contemporain à Paris, ça vient de ça, parce que Boulez savait que je compose, que je suis technicien dans l'électronique et je peux diriger aussi. Alors c'était la raison que j'ai passé quelques années à Paris.
Alors justement, à propos de votre passage à l'ensemble Inter Contemporain, pour l'ensemble, vous avez écrit plusieurs œuvres, dont une œuvre qui s'appelle Chinese Opera. Pour grand ensemble et électronique, c'est une œuvre qui vous est chère dans votre catalogue?
Ah oui, très important. Parce que entre le début, quand je suis entré à l'Inter Contemporain, et 86, quand j'ai créé le Chinese Opera, je n'avais pas de temps pour composer. Tout simplement, j'ai dirigé. Et c'était la première pièce importante pour laquelle j'ai consacré un peu de temps dans les nuits, parce que j'écris pour le 10e anniversaire de l'ensemble de Contemporain. Alors la date était donnée et heureusement ça fonctionnait très bien. Alors on peut jouer cette pièce aussi aujourd'hui, c'est assez drôle, on a une certaine sonorité unique.
C'était finalement pas une œuvre de circonstance.
Non.
Redveux, je vous écrivais votre Chinese Opera pour l'ensemble Inter Contemporain. Vous succédez à Pierre Boulez à la tête de l'ensemble. Est-ce qu'à l'époque, Pierre Boulez, c'était une figure de commandeur ou bien une oreille bienveillante?
Non, depuis le début, il était très bon ami professionnel. Alors, jamais une relation amicale, c'est seulement dans le travail. Et c'était lui qui me choisit pratiquement pendant m'observer des répétitions pour l'inauguration de la grande salle à l'IRCAM. Il suivit trois répétitions de moi et à la fin de cette troisième répétition, il m'a demandé, alors j'ai vu ce que vous faites très bien, est-ce que vous voulez être directeur musical à cet ensemble? Oh, pouf!
Comment on répond à ça?
Ah mon Dieu, je ne savais pas exactement qu'est-ce que c'est. Je savais que l'ensemble s'appelle comme ça, l'ensemble intercontemporain, mais qu'est-ce que fait le directeur? J'ai demandé, ah c'est très simple, vous restez avec nous et vous dirigez le programme, parce que nous avons Ah, bah bon, ok, merci. Bon, je dirais oui. Ah bon, merci beaucoup. Il me dit, alors écoutez, dans 2 semaines, on va avoir un concert. Le programme, c'est le Opus 9 de Schoenberg, c'est la Comme Symphonie de Schoenberg. Et non. Ah, attendez. Le programme, c'est le Pierre Lunaire de Schoenberg et le Marteau sans maître de moi, il m'a dit. Je vous souhaite un bon travail. Alors, ça, il faut savoir ce sont les deux pièces peut-être le plus difficile dans ce domaine. Et heureusement que pas seulement moi a pris dans 2 semaines la profession, mais aussi l'ensemble. Parce que l'ensemble n'a jamais joué avant ces 2 œuvres. Alors, nous avons travaillé ensemble chaque jour, beaucoup d'heures. Et finalement, nous avons réussi dans 2 semaines d'avoir une bonne qualité. Et c'était disons, l'examen aussi de la part de Pierre de me garder pendant, je pense, 13 ans.
Alors Pierre Boulez, vous lui avez même écrit une œuvre rien que pour lui, Steine, qui signifie même pierre en allemand, ça ne s'invente pas. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à propos de cette pièce ?
C'était un vrai cadeau, parce que Steine, comme vous avez dit, c'est Pierre. Moi, je suis Peter, lui, il est Pierre. Et de Peter à Pierre, c'est un jeu de mots. Et dans cette pièce, j'utilise vraiment les pierres.
Au sens propre du terme.
Oui, propre terme. Chaque musicien joue sur 2 pierres en claquant ensemble. Alors ça fait un bruit extraordinaire, cette telle beauté. Et j'ai utilisé aussi certaines citations de sa musique. Et dans cette pièce, j'ai utilisé 2 caractère de Pierre, 2 professions de lui. C'est un du chef d'orchestre et l'autre, c'est le pédagogue. Et j'ai créé dans ma pièce des situations dans lesquelles une musicienne donne l'information à l'autre et l'autre reprend celui-là et il va transformer, il essaye de faire sa musique d'une autre. C'était le côté, c'était l'influence, disons, de pensée de Pierre de cette époque-là. Et comme chef d'orchestre, j'utilisais certains petits morceaux de grand répertoire qui étaient très significant de Boulez de cette époque-là, c'était le Bayreuth temps. Alors, c'est beaucoup de Wagner, on avait un peu de Ring, on avait la musique de Wozzeck, et j'utilisais vraiment seulement 3 secondes, par exemple. Mais avec les mêmes notes, et dans une certaine variation sur sa musique. C'est une pièce qui existe jusqu'à aujourd'hui, c'est très drôle, tous les musiciens aiment beaucoup, alors c'est rejoué souvent, et je suis très content que j'ai fait ça, parce que ça, pour moi, c'est une réminiscence pour toujours sur Pierre. Le Don, c'est le premier parti de Pli selon Pli.
Le grand accord
c'est
du début.
C'est le grand accord, le début, oui. Il a fait 2 fois, et la deuxième, j'ai fait la création avec l'orchestre de la Scala, le deuxième Don. Alors aujourd'hui, on joue toujours ça, mais avant, c'était une autre version.
Thank you.
De Steine, Pierre, hommage à Boulez, de et par Peter Odewoesch, qui dirigeait ici le Klangforum Wien. Peter Odewoesch, nous achevons notre voyage en ayant évoqué votre carrière de direction d'orchestre. On va maintenant pouvoir voir plus grand.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Peter Odewoesch, dernière section de notre émission, dernière partie de notre voyage au sein de votre univers, et puisque l'on remarque dans plusieurs œuvres une passion pour le grand, pour le plus grand, pour le cosmos et l'espace, autant y aller à fond. Peter Odewoesch, vous avez écrit plusieurs œuvres en référence au cosmos ou à l'espace. Est-ce que c'est un lien que vous entretenez avec Stockhausen ?
Non, c'était bien avant. C'est ce lien avec Gagarin. Parce que quand Gagarin a fait son premier vol, il quittait la Terre en 61. C'est un plus grand événement de ma vie jusqu'à là. Et parce que j'ai jamais pensé que ça existe, un cosmos autour de nous. J'ai jamais entendu. Et tout seul, l'idée que c'est possible de quitter la Terre et entrer dans un autre domaine autour de la Terre, le cosmos, j'ai écrit une pièce pour piano qui s'appelle Cosmos, et ça existe toujours encore. Origine pour un seul piano en 61, et quelques dizaines d'années plus tard, aussi pour deux pianos. Parce que quand on joue la même pièce sur deux pianos, à peu près le même temps, mais c'est pas vraiment le même temps, c'est un petit décalage avant ou après entre les deux pianistes qui sont pas à côté, mais dans une grande distance, au début de la salle et devant le public et derrière le public. Et comme ça, on a toujours un petit décalage entre la même musique et ce qui joue, ça crée un espace. Et cet espace, c'est ce qui m'intéressait. C'est à peu près le même effet comme vous écoutez stéréophonie, alors vous entendez à peu près la même chose, mais deux différentes informations sur la même chose.
Et d'un point de vue poétique, qu'est-ce que ça peut vous inspirer de plus, Peter Odewoesch, l'espace et le cosmos ?
C'est une autre dimension dans le temps. On n'a pas les sentiments, alors c'est pas le côté humain dans ce terme, c'est quelque chose objectif, beaucoup plus objectif, une différente sonorité, différentes règles de la musique. Et ça, c'est ce qui m'intéresse.
Alors Peter Odewoesch, dans ses compositions astronomiques, il y en a une qui retient aussi l'attention parce qu'elle est assez récente. L'œuvre date de 2017, c'est Multiversum, un concerto pour orgue et orchestre. Parlez-nous un petit peu de cette pièce, Peter Odewoesch.
Dans Multiversum, on a deux orgues différents. C'est d'un côté une orgue de concert, c'est ce qu'on a de chaque grande salle. Et l'autre orgue, c'est une orgue à monde. L'orgue à monde est capté par quatre microphones et la sonorité de cet instrument est diffusée derrière le public. Comme ça, on a toujours un son d'orgue frontal par l'orgue classique et une autre sonorité de l'orgue derrière le public par le Hammond, qui est tellement différent sound, celui de la grande orgue. Et ces deux orgues entourent le public devant et derrière. L'idée de Multiversum, pour moi, c'était important, aussi important que le vol de Gagarin à cette époque-là, parce que dans ces derniers décades, j'ai lu beaucoup d'informations sur la possibilité de Multiversum, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement notre universum existe, mais on a des autres univers aussi, et comme ça, on a une Multiversum.
Et dans Multiversum, pourquoi ce choix d'un orgamon ?
Parce que ça sonne de la même façon comme le grand orgue, mais c'est différent. Alors, c'est deux univers qui sont un tout petit peu différents l'un de l'autre. C'est beaucoup mieux parce que beaucoup mieux que j'utiliserais. Mais on a un orchestre aussi, n'est-ce pas? On a un orchestre qui représente l'espace entre les deux univers. Et puisque l'orgue à monde a différentes possibilités de sonorité, il peut faire le glissando, il peut faire le crescendo, diminuendo, ce qui est difficile pour l'orgue classique. Et c'était idéal pour moi d'utiliser cet instrument.
Et est-ce que le fait de spatialiser le son aussi dans la salle, c'était aussi une espèce de dramaturgie qui peut évoquer aussi le monde de l'opéra quelque part?
Oui, je pense, oui. Parce que je me vois comme un compositeur de l'opéra, dans le premier rang. C'est ça ce qui m'intéresse.
Toujours de l'opéra.
Le plus fort possible, oui. Mais on a toujours l'occasion de demander de différents orchestres écrits pour orchestre, pour la salle de concert. Et c'est une œuvre, par exemple, ce qu'on peut très bien jouer dans une grande salle de concert, dans le Grand Philharmonie, le monde entier, on l'a fait aussi. Mais aussi, par exemple, dans la grande église. Alors, on pourrait jouer dans Notre-Dame quand il sera réparé. Et cette sonorité est vraiment complètement différente de celui que j'écris normalement pour l'orchestre, mais aussi différent que mes opéras.
Time and Space, le mouvement final de Multiversum, un concerto pour orgue, orgamon et orchestre, Iveta Apkalna, Laszlo Fassang et l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, dirigé évidemment par le compositeur. Peter Rudwisch, merci infiniment d'avoir pris le temps de passer par nos studios du Carrefour de la Création, c'était un honneur.
Merci beaucoup.
Ce soir au Carrefour de la Création, il y avait à la technique Adeline Omello, attachée de production Pauline Boisaubert, une réalisation de Claire Lagarde.
À réécouter sur francemusique.fr.